RFI 19h30, ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ouzoui.
Le bilan est d'au moins 45 morts après une frappe israélienne qui a touché un camp de déplacés à Rafah la nuit dernière. Les condamnations se multiplient. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, se dit horrifié. Emmanuel Macron, le président français, fait part de son indignation. C'est un drame qui accable un peu plus Benjamin Netanyahou, qui est, depuis la semaine dernière, visé par une demande de mandat d'arrêt de la CPI, la Cour pénale internationale. Sur le plan intérieur et à l'étranger, les soutiens au Premier ministre israélien semblent s'effriter, en cause sa gestion de la guerre à Gaza. Et parallèlement à ça, eh bien, la question de la reconnaissance d'un État palestinien semble monter en puissance. Notre question ce soir, le Premier ministre israélien est-il de plus en plus isolé? Est-ce qu'il est même menacé? Ou est-ce qu'il peut rebondir? Comment? Et qu'est-ce que tout cela augure de la suite de la guerre à Gaza? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités en studio, à ma gauche, Laetitia Bucaille, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure de sociologie politique à l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Insaf Rezaghi, face à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorante en droit international à l'Université Paris-Cité, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient à Jérusalem, membre du comité de rédaction du site Yanni. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, David Kalfa.
Bonsoir.
Co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, que vous inspire la première déclaration de Benjamin Netanyahou après ces frappes qui ont donc touché un camp de déplacés à Rafah, le Premier ministre israélien qui s'est exprimé il n'y a pas si longtemps, en fin de journée. Il a déclaré, je cite, « Malgré tous les efforts déployés, un accident tragique s'est produit hier. Nous enquêtons sur ce qui s'est passé et nous en tirons les conclusions. » Fin de citation. Insaf Rezaghi, l'ONU a demandé effectivement à Israël une enquête, je cite, « complète et transparente ». Quelle enquête peut être menée, selon vous, par Israël à Rafah?
Tout d'abord, pour effectivement revenir sur les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui parle d'incident tragique. Cet incident, ce terme est dommageable parce que ça s'inscrit dans une opération militaire globale qui a débuté le 8 octobre. Pour Rafah en particulier, Benjamin Netanyahou avait annoncé que l'armée israélienne irait à Rafah. Donc il est difficile derrière de parler d'incident tragique quand une opération militaire est annoncée. En parallèle de cela, ces opérations militaires à Rafah et les bombardements hier soir qui ont fait 45 morts interviennent alors que vendredi dernier, la Cour internationale de justice, qui est l'organe des Nations Unies, le principal organe des Nations Unies pour les différents juridiques entre États, avait exigé d'Israël qu'il cesse toute opération militaire à Rafah. Ces décisions de la Cour est contraignante pour les États et ils sont censés les respecter. Israël aurait donc dû stopper immédiatement son intervention militaire à Rafah, ce qu'elle n'a pas fait. C'est une violation flagrante de la décision de la Cour. Et la Cour, vendredi, avait déjà dit qu'il lui semblait qu'Israël n'avait déjà pas respecté ses précédentes décisions. Donc il y a, semble-t-il, une volonté délibérée de la part d'Israël de ne pas respecter les obligations que la Cour lui impose.
Mais c'est intéressant parce que vous êtes doctorante en droit international. Israël a dit, dans sa première déclaration, avoir visé des cibles légitimes au regard du droit international.
Alors, il y a des principes fondamentaux quand on fait la guerre. Chaque État, chaque partie au conflit doit les respecter. Parmi ces principes fondamentaux, il y a le principe de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un État ou un groupe armé lance une attaque militaire, il doit le faire dans le respect des civils et aussi en proportionnalité de l'attaque. C'est-à-dire que l'avantage militaire escompté, qui est ici apparemment l'élimination d'un commandant du Hamas, ne doit pas être plus excessif que les pertes civiles qu'il y a en face. Sauf qu'aujourd'hui, on a en face 45 civils qui ont été tués, 70 personnes blessées. Donc il est vrai que la question de la proportionnalité se pose. Et quand on regarde les chiffres plus globaux depuis le début de l'opération militaire, on est autour de 35 000 morts, 78 000 blessés, 80% des bâtiments civils qui ont été endommagés ou détruits. Donc tout ceci laisse douter d'une réponse proportionnelle. Évidemment, après, il appartiendra aux juridictions internationales de le déterminer précisément.
La proportionnalité, est-ce que c'est le credo de Benjamin Netanyahou? Parce que lui est davantage sur une ligne de... il défend, comment dire, le 7 octobre, c'est son argument. Donc le 7 octobre justifie, entre guillemets, toutes les actions d'Israël à Gaza aujourd'hui?
Alors, Il faut distinguer deux choses en droit international. Tout d'abord, le droit à la légitime défense, c'est-à-dire un État qui est attaqué à travers une agression armée, est en droit de se défendre. Là, sur la question du 7 octobre, c'est une autre question derrière de les règles qui s'imposent quand on est en guerre. Il faut donc distinguer l'agression armée et la question de la décision d'entrer en guerre, qui est licite ou pas en droit international, et la question des règles qui s'imposent lorsque l'on est en guerre, lorsque la guerre a déjà démarré. Et peu importe que la riposte soit licite ou pas licite en droit international, une fois qu'on est en guerre, les parties au conflit, le Hamas comme Israël, se doivent de respecter les principes cardinaux du droit international humanitaire, la proportionnalité, le principe de distinction, l'interdiction du recours à des armes chimiques et biologiques, etc.
Alors, avant de donner la parole à nos invités, j'ai une dernière question, puisque vous avez, dès le début de votre propos, évoqué cet ordre de la Cour internationale de justice, ordre sommet à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire, en opposition à ce qui s'est passé donc la nuit dernière au camp de déplacés de Rafah. Mais puisque la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou est isolé ? La question, c'est qu'est-ce qu'il risque ?
Alors, sur le front de la Cour internationale de justice, il faut rappeler que c'est une affaire qui oppose l'État d'Israël à l'État de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas Netanyahou qui est visé en tant qu'individu, mais c'est l'État d'Israël dans la façon dont elle respecte ou non les obligations qui lui
incombent. Alors, que risque Israël et par répercussion, que risque Benjamin Netanyahou, puisqu'il est le Premier ministre israélien ?
La décision de la Cour internationale de justice ne devrait intervenir que dans quelques années sur la question de la violation ou non de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le problème avec la Cour internationale de justice, c'est que ces décisions sont certes contraignantes, mais elles ne disposent ni de force de police, ni de pouvoir de contrainte, donc de sanction. Elles s'en remettent systématiquement, en fait, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un autre organe principal de l'organisation, pour mettre en œuvre ces décisions. C'est-à-dire qu'il appartient ensuite au Conseil de sécurité, soit d'adopter des sanctions contre l'État d'Israël ou contre tout autre État qui serait condamné par la Cour, mais la CIJ en elle-même ne peut rien faire. Mais il y a un second front aujourd'hui judiciaire, qui est la Cour pénale internationale. Et donc, vous le disiez en début, il y a eu une demande de la part du bureau du procureur d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre notamment de Benjamin Netanyahou et aussi d'un certain nombre de dirigeants du Hamas. Là, pareil, si demain le Premier ministre israélien venait à être jugé puis condamné par la Cour, ce serait certes une victoire sur le front judiciaire pour les victimes, qui seraient reconnues en tant que victimes. En revanche, il apparaît peu probable que l'État d'Israël décide de transférer le Premier ministre israélien devant la Cour.
Et ça, c'est d'ailleurs un des arguments des Israéliens de dire qu'il y a un mandat d'arrêt délivré contre Benjamin Netanyahou et également contre le Hamas, comme si la Cour pénale internationale mettait sur un même niveau les deux entités, en tout cas israéliennes et le Hamas. Laetitia Bucaille, je voudrais avoir votre analyse de ce qui s'est passé la nuit dernière à Rafah. Et je vais poser cette question peut-être un peu frontale, mais est-ce que c'est un énième incident dénoncé aujourd'hui et provoqué par Israël ou est-ce que ça peut provoquer un tournant dans la guerre à Gaza, les frappes qui ont touché donc ce camp déplacé, qui ont fait au moins 45 morts? Il y a une première réaction, il y a quelques minutes des États-Unis, parce qu'évidemment, on va poser la question du soutien américain, puisqu'on se demande si Benjamin Netanyahou aujourd'hui est isolé ou pas. La Maison-Blanche appelle Israël, je cite, à prendre toutes les précautions pour protéger les civils. C'est une réaction très mesurée.
Oui, c'est loin d'être le premier incident de ce type, s'il faut appeler ça un incident, puisque les dommages collatéraux, s'il faut les appeler comme ça également, sont considérables. On regarde le nombre de morts civils, même si ce sont des estimations, est considérable, et ceci depuis les premières frappes. On sait aussi que justement sur cette question de la proportionnalité que vous rappeliez, Israël est passé à une autre échelle. C'est-à-dire qu'avant, dans les opérations militaires qu'elle menait précédemment, guerre de 2014-2018-2021, on était plutôt dans l'acceptation de « on vise un militaire du Hamas, une cible du Hamas, et on accepte de tuer 10 civils pour cette cible considérée comme légitime par Israël. » Là, on serait passé plutôt à une échelle de 1 à 100, cette acceptation-là. Parce que, du point de vue israélien, c'est le fait de dire que l'ennemi est tellement redoutable, est tellement nuisible, est tellement dangereux qu'on est en droit d'accepter un nombre de civils plus élevé. C'est la logique israélienne. Et il y a eu une acceptation bien plus grande dans l'opinion publique israélienne des morts palestiniens, parce que l'effroi, l'épouvante a été telle après le 7 octobre que les Israéliens en sont venus à accepter ce seuil de mort de civils et tout à fait que l'on peut considérer comme effroyable également.
C'est toujours le cas.
Est-ce que c'est un tournant ? Ça change un peu pour plusieurs raisons. Alors d'abord, là, c'est très caractérisé. C'est un camp de déplacés où les gens étaient censés... Ça avait été normalement désigné par Israël pour que justement les réfugiés déplacés, redéplacés, encore une fois, étaient censés être à l'abri dans cet endroit. Donc ça a une espèce de cruauté de l'événement terrible. On a des images de l'incendie qui ont circulé très vite. Le fait que les événements soient mis en image et soient diffusés compte évidemment beaucoup. Voilà, ça bouge un tout petit peu en Israël, alors mais dans plusieurs sens. C'est pour ça que vous posiez la question de savoir si Netanyahou allait sortir de cette épreuve ou allait rebondir. Netanyahou est cerné de toutes parts.
Est-ce que ça l'affaiblit déjà, cette épreuve oui. à Rafah ?
Oui. Mais Netanyahou est cerné de toutes parts et en même temps, jusqu'à maintenant, il a réussi à s'en tirer de manière extrêmement habile. C'est-à-dire qu'il est pressé par ses alliés américains qui lui mettent quand même un certain nombre de conditions, ouais. Peut-être pas d'ultimatum, enfin qui ont tapé plus ou moins fort du poing sur la table. Ils sont cernés par une partie de la communauté internationale avec des États européens qui reconnaissent l'État palestinien. Ouais. Il y a la Cour internationale de justice, il y a la Cour pénale de justice, enfin,
et leur réputation...
Et voilà. Et sur le plan intérieur, ça change un tout petit peu aussi parce que, alors, il y a d'une part la pression de l'extrême droite qui menace Benjamin Netanyahou, mais sur l'autre front, sur un front, alors là, qui réclamerait davantage de mesures dans la guerre menée, il y a à la fois les familles des otages qui sont absolument désespérées. Et il y a justement des familles d'otages qui ont choisi de publiciser des images des très jeunes femmes soldates qui ont été prises en otage le 7 octobre. Et donc, on voit que, si vous voulez, en fait, ces otages ont été lâchés deux fois par l'État d'Israël. Une première fois parce qu'elles étaient désarmées à proximité, enfin, dans le kibbutz, juste à côté de Gaza, et qu'elles n'avaient rien pour se défendre, et qu'elles ont été prises en otage, et qu'aujourd'hui, elles seraient abandonnées une deuxième fois par l'État d'Israël. Mais alors, il y a aussi des mères, des parents de soldats, qui sont en train de combattre à Gaza et qui disent stop, parce que ça fait des mois qu'ils sont sur le front.
C'est la question que je vous posais, l'émotion liée aux otages, est-ce qu'elle sert, entre guillemets, aujourd'hui Benjamin Netanyahou ou pas, dans sa guerre à Gaza ?
C'est-à-dire qu'il y a ceux qui défendent la vie des otages et qui considèrent que la primauté devrait...
Donc il soutient Benjamin Netanyahou dans son offensive ?
Non, parce qu'il voudrait des négociations avec le Hamas. Et là, je crois que le Hamas vient de dire justement qu'il ne reviendrait pas à la table des négociations.
Et surtout, Benjamin Netanyahou a redit hier que... il voulait continuer la guerre, qu'il n'était pas question de stopper cette guerre à Gaza.
Mais en tout cas, parmi les mères des soldats, là, j'ai vu une lettre qui avait été écrite par l'une d'entre elles et qui dit, en fait, trouvons une solution politique plutôt que de continuer cette guerre sans fin. Avec première motivation, bien sûr, la vie des soldats, parce qu'il y a une sorte de contrat entre la population israélienne, la société israélienne qui accepte que ses enfants aillent servir militairement dans l'armée israélienne, mais il y a un pacte qui dit que, en fait, l'armée doit quand même tout faire pour les protéger. Or, évidemment, cette guerre, elle cause aussi des morts chez les militaires israéliens. Donc, les familles qui ont depuis des mois leurs enfants au combat ne dorment pas très bien la nuit. Mais cette mère donne comme argument la vie des soldats, la vie des otages, et elle dit... Je sais que ça n'intéresse pas beaucoup les Israéliens, mais il y a quand même aussi beaucoup trop de civils palestiniens qui meurent. Donc, peut-être que ça sera un seuil qui, avec d'autres choses, fera un tout petit peu évoluer l'opinion publique israélienne.
Faire évoluer l'opinion publique israélienne, mais est-ce que la pression... David Kalfa, on ne vous a pas encore entendu dans ce débat du jour. Est-ce que la pression pour un accord, elle menace Benjamin Netanyahou ? Je reprends les mots qu'il a dit hier exactement. Il s'est dit fermement opposé à la fin de la guerre à Gaza. Donc, où se situe le Premier ministre israélien aujourd'hui ?
Je crois qu'on commet une erreur quand on personnalise à outrance cette guerre. C'est-à-dire que c'est l'intérêt politique de Netanyahou qu'elle perdure, mais c'est une erreur de croire que c'est le seul à penser qu'Israël doit remplir ses objectifs politico-militaires. Gantz, par ailleurs, qui est quelqu'un qui est plutôt sur la gauche droite, Benny Gantz, donc l'ex-ministre de la Défense, qui est donc membre du cabinet de guerre, estime lui aussi qu'il faut mener à bien l'opération à Rafah. Je voulais dire un certain nombre de choses, parce que j'ai écouté patiemment ce qu'ont dit nos interlocutrices. Je ne sais pas d'où sort ce ratio de 1 à 100, mais je me demande comment... Sur quelle base factuelle Laetitia Bucaï avance un tel chiffre. Je ne l'ai lu absolument nulle part, sauf peut-être à imaginer que c'est une reprise du bilan du Hamas, qui me semble quand même très problématique de reprendre. Je pense qu'il faut faire très attention au narratif des deux belligérants. Israël a intérêt à sous-estimer le nombre de civils tués côté palestinien dans cette guerre, et inversement, le Hamas a tout intérêt à les surestimer, pour une raison évidente, parce que dans ce type de conflit en milieu urbain, la partie la plus faible d'un point de vue strictement militaire, en l'occurrence le Hamas, a intérêt à contourner la supériorité militaire et technologique israélienne, oui. Notamment en utilisant sa propre population, à la fois comme auxiliaire et bouclier humain.
Bien sûr.
C'est d'ailleurs pas un point de vue israélien, parce que j'ai entendu aussi point de vue israélien.
Attends, je me permets de vous couper, parce que le temps tourne, oui. Et j'aimerais qu'on se ressente vraiment sur notre question. Est-ce que Benjamin Netanyahou est isolé? Parce qu'évidemment, ça augure de la suite du conflit à Gaza.
Il était déjà isolé, en fait. Si vous voulez, il était déjà isolé avant cette guerre. C'est probablement le pire Premier ministre de l'histoire de l'État d'Israël.
La question, c'est pas de le juger, c'est à quel point est-ce qu'il est menacé aujourd'hui?
Non, mais enfin, vous me demandez s'il est isolé. Donc, je vous réponds qu'il était déjà avant la guerre. Et si vous laissez juste terminer ma phrase, il est d'autant plus depuis le 7 octobre, parce qu'il est comptable de cette débâcle historique. Ce qu'il risque, d'abord en Israël, dans le contexte israélo-israélien, pour ainsi dire, c'est s'il quitte les rênes de pouvoir, c'est de se retrouver derrière les barreaux. Parce que je rappelle qu'il est quand même triplement inculpé, Netanyahou. Si vous voulez, il n'y a rien d'exceptionnel, malheureusement. C'est un peu l'incarnation du populiste illibéral. On en a vu un certain nombre d'exemples tragicomiques, pour ainsi dire, en Argentine, comme aux États-Unis, par exemple, avec Trump. Donc, il est déjà lourdement inquiété par la justice israélienne, qui n'a jamais, d'ailleurs, hésité à condamner qui un Premier ministre, qui un président, qui s'est retrouvé derrière les barreaux. Et qui, par ailleurs, comme l'ont rappelé nos experts, il est aussi menacé par la justice internationale, puisqu'il y a une enquête en cours à la fois de la CPI et probablement, je pense que le tribunal préliminaire va, à mon avis, accéder à la demande du procureur Kahn. Et par ailleurs, il y a aussi une enquête qui, certes, prendra des années de la Cour internationale de justice, mais c'est de nature, si vous voulez, il y a un impact au-delà de la question du droit, parce que pour le coup, il y a aussi des interprétations, il y a le droit, il y a la lettre, et puis il y a l'esprit. Sur la décision de la CIJ, par exemple, vous avez quatre juges, dont le juge allemand et roumain, qui estiment que le verdict ne demande pas à Israël de stopper toutes ces opérations immédiatement.
Oui, donc ça va prendre du temps. Donc il est fragilisé par la justice internationale. Il est fragilisé au niveau sur le plan intérieur, avec Benny Gantz qui a menacé de quitter le cabinet de guerre, qui a même mis un ultimatum au 8 juin s'il n'y avait pas de plan sur l'après-guerre à Gaza. D'ailleurs, ça pose la question de est-ce qu'il peut y avoir un accord à Gaza avec Netanyahou. Mais
Et
le troisième plan. Attendez, David Kalfa, j'aurais juste évoqué avec vous le troisième point, outre la justice internationale et le plan intérieur. C'est l'international et surtout le soutien américain. Est-ce que Benjamin Netanyahou et la guerre en tout cas menée par Israël à Gaza aujourd'hui tient par le soutien de l'indéfectible américain, et est-ce que Washington peut lâcher Benjamin Netanyahou? Parce qu'il y a eu
Washington l'a déjà en partie lâché. Je veux dire, les relations entre Netanyahou et Biden sont quand même très fraîches. Je rappelle quand même qu'il y a à peine quelques semaines, il y a des milliers d'obus qui n'ont pas été livrés à Israël, d'artillerie, parce que les États-Unis ont voulu faire la démonstration du sérieux de leur posture s'agissant de leur opposition à l'opération militaire israélienne à Rafah. Par ailleurs, cette guerre ne se mêle pas seule. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas oublier aussi qu'il y a deux belligérants. Donc, il y a aussi de l'autre côté, côté Hamas, une vision, une autonomie de pensée et de stratégie. On se pose d'ailleurs assez bizarrement jamais la question de la stratégie de l'Irak chinois dans ce conflit, de celle de son ministre de la Défense, pour ainsi dire, Mohamed Def, ça n'aurait pas donné quand même l'impression que, au fond, Israël se bat contre une espèce d'ennemi totalement invisible. Il y a un belligérant aussi du côté palestinien qui a une stratégie sur le long terme, qui n'est d'ailleurs pas purement militaire, hein, qui vise sur le long terme à tout simplement à supplanter l'autorité palestinienne et à conquérir de l'intérieur l'OLP. Mais il est évident, s'agissant de votre question, Netanyahou est plus isolé que jamais. Il est isolé sur la scène politique intérieure. Les sondages successifs avant le 7 octobre et a fortiori depuis la débâcle du 7 octobre disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'en cas d'élection anticipée, il perdra les rênes du pouvoir au profit de Benny Gantz, avec vraiment une défaite électorale historique. Par ailleurs, vous venez de le dire à raison, de le rappeler à raison, les tensions croissantes avec l'administration américaine, même si elle a mis de l'eau dans son vin s'agissant de l'opération à Rafah.
D'accord.
Et puis enfin, bien sûr, les pressions internationales via les cours, la CPI et la Cour internationale de justice, quand même une nuance de taille que je voudrais quand même rappeler.
On en a parlé.
C'est que la droite israélienne a quand même réussi ces dernières années à créer, si vous voulez, une espèce de coalition internationale des droites un peu dures, illibérales, avec notamment une relation stratégique qui s'est consolidée avec l'Inde, avant la guerre, avant l'invasion russe en Ukraine, avec la Russie de Poutine, avec les Républicains aux États-Unis.
Merci.
Et elle conserve aussi des alliés en Europe, notamment
merci
le bloc d'Europe centrale et orientale.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Benjamin Netanyahou est-il de plus en plus isolé? Plus isolé que jamais, nous dit à l'instant David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Insaf Rezaghi, doctorante en droit international à l'Université Paris-Cité, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient à Jérusalem. Laetitia Bukain, notre troisième invitée, professeure de sociologie politique à l'INALCO, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. J'ai envie de poser la question maintenant de qu'est-ce qui peut faire tomber Benjamin Netanyahou, puisqu'on le dit plus isolé que jamais, on a évoqué pourquoi, et quelles conséquences surtout la fragilisation du Premier ministre israélien sur l'avenir de la guerre à Gaza. Insaf Rezaghi, je me tourne vers vous, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est côté palestinien, la question de la reconnaissance d'un État palestinien qui monte, puisqu'il y a trois États européens, on a commencé à l'évoquer, qui demain reconnaissent officiellement l'État palestinien, qui sont l'Irlande, la Norvège et l'Espagne. Est-ce que il y en a d'autres qui vont suivre, et est-ce que ça augure peut-être d'un tournant dans la guerre à Gaza?
Oui, tout d'abord peut-être juste une précision, le ratio évoqué de 1% est véridique, c'est la presse israélienne qui l'a révélé d'ailleurs il y a quelques semaines et via le recours à l'intelligence artificielle. Sur la reconnaissance d'État, il faut préciser qu'en droit international, la reconnaissance d'État, c'est avant tout un acte politique. Elle n'a pas de valeur juridique très concrète. C'est une déclaration où un État dit « je souhaite entrer en relation juridique avec un autre État parce que je considère qu'il remplit les critères de l'existence d'un État, une population, un gouvernement et un territoire ». Vous l'avez dit, il y a trois États européens qui vont reconnaître la Palestine à partir de demain. La Slovénie est en train de le faire également. Avant cela, il y avait eu trois États des Caraïbes qui ont reconnu la Palestine. L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté une résolution appelant à l'adhésion, à l'admission de la Palestine en tant qu'État membre des Nations Unies, procédure qui est entravée par le veto des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces reconnaissances successives, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 146 États membres des Nations Unies sur les 193 qui reconnaissent la Palestine. C'est deux tiers des États membres qui la reconnaissent. C'est avant tout donc un message politique. Et le Premier ministre espagnol le disait très bien dans son propos. L'objectif, selon lui, c'était d'isoler davantage Benjamin Netanyahou et Israël face à la guerre à Gaza pour exiger un cessez-le-feu. Et deux, c'était de dire, attention, la solution à deux États est aujourd'hui clairement en danger parce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou la rejette complètement. Donc il y avait deux messages, et c'était clairement des messages politiques. Il y avait aussi un troisième message plus politique européenne qui était d'appeler l'Union européenne à un peu plus d'unité sur cette question. Et d'ailleurs, quand on regardait le discours du Premier ministre irlandais lors de l'annonce de la reconnaissance de la Palestine, derrière lui, il y avait le drapeau de l'Irlande et des Nations Unies, mais il n'y avait pas le drapeau de l'Union européenne. Donc c'était aussi un message à l'égard de l'Union européenne et à appeler à une reconnaissance de la part de l'organisation de la Palestine. Palestine. Donc ça participe de l'isolement international d'Israël et de son gouvernement. Ça s'ajoute à un calendrier, hein, le calendrier est bien choisi. Hein, ça s'inscrit dans à la fois la demande d'émission de mandat d'arrêt du procureur de la CPI et les décisions, l'ordonnance de la Cour internationale de justice vendredi. Donc il y a un vrai calendrier politique et juridique.
Et alors tout cela, donc, pour résumer, la montée en puissance de la reconnaissance de l'État palestinien, la justice internationale qui cerne Benjamin Netanyahou et Israël, le soutien américain qui s'étiole, et puis sur le plan intérieur, même Benjamin Netanyahou qui est fragilisé. Est-ce que le Premier ministre israélien peut tomber Laetitia Buckaï, et quelles conséquences sur l'évolution de la guerre à Gaza?
Oui, enfin, il peut tomber. Enfin, les configurations possibles à venir sont vraiment multiples. Mais enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la pression internationale, c'est à double tranchant. Parce que on sait que en politique internationale, souvent, quand il y a des politiques d'embargo, quand il y a des pressions très fortes qui sont exercées sur un État, ça conduit plutôt au fait que l'opinion publique se rassemble derrière son gouvernement. Alors là, on ne peut pas dire que la population israélienne soit rassemblée derrière son gouvernement, mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment d'être assailli, poursuivi, montré du doigt, accusé, etc., a aussi un effet de durcissement sur l'opinion publique israélienne qui se voit vraiment comme une forteresse assiégée et lâchée par le monde entier, avec cette idée que l'antisémitisme, enfin qui n'est pas qu'une idée bien sûr, ressurgit de toutes parts dans le monde entier. Donc il y a à la fois un durcissement des gens qui sont plutôt à droite ou à l'extrême droite, hein, qui sont prêts à en fait qui estiment qu'ils ne peuvent compter que sur eux, que sur eux-mêmes, que sur les juifs israéliens. Et puis on a bien sûr d'un autre côté des gens qui sont plus à gauche, qui sont très effrayés en fait par justement cette montée de l'extrême droite. Il y a eu tout récemment là une vidéo qui a été montrée. C'est une fausse vidéo, mais c'est une espèce d'alerte d'un réserviste qui en fait n'est pas un réserviste, qui dit qu'il est prêt à désobéir aux ordres si on mettait fin à la guerre à Gaza et qu'on n'allait pas jusqu'au bout de la tâche qui est d'éliminer le Hamas. Hein. Donc enfin, la société israélienne est quand même très fracturée. Elle s'est mise derrière son premier ministre pour aller à l'assaut contre le Hamas, mais les fractures qui sont très profondes dans cette société, qui sont liées à beaucoup de choses, sont en train de ressortir. Et ce n'est pas forcément un bon scénario.
Alors, vous citez, il nous reste quelques secondes, hein, mais vous citez l'opinion publique israélienne. Elle est plus importante en soutien de Benjamin Netanyahou que la communauté internationale. Je pense au soutien, évidemment, du Premier ministre israélien, les États-Unis en tête.
C'est-à-dire que c'est elle qui va voter s'il y a des élections anticipées. Donc, voilà, c'est elle qui va...
Parce qu'il y a cette possibilité-là.
Oui, oui.
Avec Benny Gantz, notamment, qui a menacé de quitter le cabinet de guerre. Ça peut augurer d'élections anticipées.
Tout à fait.
Et possiblement d'un nouveau Premier ministre.
Ou l'extrême droite qui trouve que Netanyahou ne va pas si loin. En fait, il est menacé. Enfin, il peut être lâché par tous ses alliés, puisque cette coalition est très, bien sûr, hétéroclite et très...
Et très fragile, et ça peut changer la face de la guerre, évidemment, à Gaza. Merci beaucoup à vous trois. Laetitia Buckaï, professeure de sociologie politique à l'UNALCO, Insaf Rezaghi, doctorante en droit international à l'Université Paris-Cité, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient. Et merci à David Kalfa. J'aurais voulu vous donner une dernière fois la parole, je sais que vous vouliez réagir, David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Claude Battista à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un peu plus d'une minute, ce sera le journal de 20h, puis le décryptage de Marion Casanov. Ce soir, la Syrie, que reste-t-il de la révolution de 2011? Juste après, ce sera Afrique Soir à 20h30 heure française. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Je confirme. Bonsoir Romain. Bonsoir à toutes et à tous.
Et au programme ce soir, le premier gouvernement de la 5e République au Tchad.
Une nouvelle équipe révélée cet après-midi, tout juste. Un gouvernement légèrement réduit, mais qui ressemble largement au précédent. On en parle.
Quatrième audience dans le procès de l'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo au Cameroun.
Et oui, audience express ce matin au tribunal militaire de Yaoundé, une demi-heure à peine, hein, pendant laquelle le tribunal a notamment rejeté la demande des avocats de pouvoir reproduire le dossier d'instruction. À retenir aussi notre dossier consacré aujourd'hui à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo.
Eh bien, merci beaucoup Zéphirin Quadio. On sera à l'écoute. C'est dans une demi-heure.